bonjour à tous.
Les réactions se multiplient après la disparition de Robert Badinter.
Pour Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, son parcours, ses plaidoiries, ses combats politiques illustrent mieux que les mots ses valeurs d'un humanisme lumineux, celle d'un homme qui, face aux injustices et aux souffrances, n'aura eu de cesse de vouloir corriger les unes afin d'apaiser les autres. Pour la première secrétaire fédérale du Parti Socialiste en Deux-Sèvres, Nathalie Lanzy, Robert Badinter aura marqué l'histoire par la force de ses convictions, par son courage. C'était une voix, la voix de l'abolition de la peine de mort, et son plaidoyer pour l'abolition a inspiré depuis de nombreux pays d'Europe.
Un alpiniste renommé devant le club des entreprises du Bocage jeudi dernier.
Et ce pour une soirée sur le thème « Atteindre les sommets » avec bien entendu un parallèle entre sa pratique de la montagne et le monde de l'entreprise. Auteur d'ouverture en solo très remarquée dans le milieu de l'alpinisme dans les années 80, Christophe Profi, 62 ans, est aujourd'hui guide de haute montagne à Chamonix. Toute sa vie, ce dernier a repoussé les limites sans se mettre démesurément en danger.
Je tiens trop à la vie, quoi. Donc il faut y aller sereinement, imaginer toutes les situations, et effectivement le risque, bon, il est présent, mais j'ai toujours pensé que la montagne, simplement il faut essayer de l'apprivoiser petit à petit, de composer, et surtout une chose très importante, on ne peut pas trahir les clients qu'on emmène, c'est-à-dire qu'ils nous font confiance, donc on ne peut pas trahir cette confiance. On décide d'aller à tel endroit, on doit tout faire pour que ce soit béton, quoi. On accepte de prendre des risques, de vivre des situations un peu engagées où il y a du doute, mais c'est très réfléchi. Parfois, souvent, on me dit est-ce que ça vaut le coup d'aller sur une montagne si on sait qu'elle n'est pas en bonne condition? Moi, je dis, il faut essayer, parce qu'on peut faire toujours demi-tour. Il faut savoir faire demi-tour. Il faut savoir ne pas s'entêter, mais essayer, toujours oser, ça c'est important.
Christophe Profi mesure mieux que quiconque les effets du réchauffement climatique et il le constate au quotidien.
Ah oui, tous les jours, bien sûr. On voit même, c'est encore différent de l'année dernière. Pour parler concrètement, on s'aperçoit que les Monts Blancs, par exemple, on peut les faire bien plus tôt à partir du mois de juin à pied en passant par les Grands Mulets. Alors que généralement, à cette époque-là, au mois de juin, il faut y aller en ski, il y a beaucoup de neige. Là, il y a eu peu de neige. Il y a des blocs qui tombent un peu partout, on le mesure tout le temps. Les glaciers remontent, les parois se fragilisent, le permafrost fond. Ce qui est très triste, c'est de voir ces glaciers, cette carapace de glace remonter petit à petit. Ça, c'est à pleurer, quoi.
L'alpiniste Christophe Profi devant les membres du club des entreprises du Bocage Bressuré, c'était jeudi soir à Cerisé, reportage signé Vincent Nourry.
Un autre aventurier était en Bocage hier vendredi.
Arnaud Boissière était en effet devant les collégiens de Notre-Dame à Bressuire. Le navigateur prépare le prochain Vendée Globe qu'il a déjà bouclé 4 fois consécutivement depuis 2009. C'est un record. À un peu plus de 250 jours du départ, fixé au 10 novembre, son quotidien est toujours bien rythmé, comme il l'a expliqué aux élèves et au micro de Vincent Nourry.
Beaucoup de travail technique au chantier, beaucoup de travail avec le fournisseur, beaucoup de représentations là comme aujourd'hui à Bressuire. C'est vraiment ultra chargé, mais c'est ultra excitant parce que j'ai la chance de vivre pleinement ma passion, donc c'est vraiment chouette à partager.
Cette année 2024, Arnaud, c'est vos Jeux Olympiques à vous?
Ah ben complètement, ouais. C'est que tous les 4 ans le Vendée Globe, donc il y a les Jeux à Paris, il y a le Vendée Globe cette année, c'est l'année du sport en France et international, donc c'est vraiment un moment privilégié mais à ne pas rater, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se rater sur la préparation et puis il y aura une pression énorme le 10 novembre.
Vous allez arriver sur ce Vendée Globe, Arnaud, avec des ambitions?
Forcément, j'ai beaucoup d'ambitions parce que j'ai fait 4 Vendée Globe, 4 finis, donc j'ai envie de faire... Déjà en termes de temps, un meilleur Vendée Globe je n'ai jamais fait. Et en plus j'ai fait 7, 8, 10 et 15e et j'ai envie de faire mieux qu'un 15e et avoir cette tendance. Donc, et plus c'est affinité, il y a beaucoup de surprises sur un Vendée Globe. Donc j'ai envie d'en faire partie des surprises.
La mise à l'eau de son bateau est prévue le mois prochain et vous l'avez compris, tout va s'enchaîner assez vite pour Arnaud Boissière qui, de par son statut de navigateur, n'échappe pas non plus aux évolutions du climat, visibles notamment au pôle sud.
Les icebergs fondent. Et ça fait des gros icebergs qui atterrissent des fois vers les Kerguelen et tout, donc c'est extrêmement dangereux. Ça fait un dérèglement climatique monstrueux, ce qui fait que les conditions des marins qui faisaient Vendée Globe il y a 20 ans ont changé. Avant, quand on faisait le tour du pôle sud, c'était du vent fort au portant. Maintenant, on a du vent de face. Et ce qui est désolant aussi, c'est que des fois, on voit des nappes de pétrole, on voit des bateaux abandonnés, des cargos abandonnés, des containers abandonnés, donc... L'éducation, je trouve que c'est hyper important. Moi, je considère qu'il faut être optimiste dans la vie, mais en tout cas, il faut être lucide. Aujourd'hui, il faut qu'on se bouge pour que ça change. On a fait une conférence de presse à UNESCO avec tous les skippers du Vendée Globe. Et vraiment, on a tous dit que nous, c'était un souci, notre terrain de jeu est dégradé, donc il faut le préserver.
Le marin et skipper Arnaud Boissière à Bressuire hier. Cet entretien est à retrouver plus en longueur demain dans Sport Matin Dimanche, présenté justement par Vincent Nori. La nouvelle saison du Futuroscope débute ce samedi. Le parc présentera encore des nouveautés, notamment l'Aquascope qui aura nécessité un investissement de 60 millions d'euros, le plus important pour une attraction depuis la création du site en 1987. Ce parc aquatique très futuriste, entièrement thématisé, offrira une expérience immersive unique en France. Et à cela s'ajoute un nouveau spectacle vivant, Eclipse, un étonnant duo entre un bras robot géant et un performeur qui vous emportera dans un monde captivant de mapping vidéo, de laser et d'effets spéciaux. Rodolphe Bouin, le président du directeur du Futuroscope.
Le parc du Futuroscope souhaite faire en sorte que dans sa programmation globale, il y en ait pour tous les goûts et pour tous les âges. C'est une des marques de fabrique du parc du Futuroscope. On a été vers un peu plus de sensations ces derniers temps, notamment avec Chasseurs de Tornades en 2020. On est toujours sur la grande et belle image et l'immersion avec des dispositifs technologiques incroyables comme Chasseurs de Tornades. Et on va également sur le vivant. On a un très joli spectacle de magie qui fonctionne merveilleusement depuis 30 ans. Et là, on fait un deuxième spectacle vivant qui allie art du cirque, danse, technologie, avec des Canadiens, le cirque éloise, avec un pitch très simple qui est en fait Lucas, un jeune génie de la robotique et de l'informatique, qui a développé une intelligence virtuelle, beaucoup d'actualité aujourd'hui, et un robot qu'il vient présenter à Futurolab, donc à nos visiteurs. Et puis ça se passe pas forcément comme c'était prévu. L'intelligence virtuelle va un peu contre le robot et Lucas, mais je pas dévoiler la fin, mais ça se finit bien. Et c'est surtout un merveilleux écrin technologique.
Le président du directoire du Futuroscope, Rodolphe Bouin, Eclipse, une des nouveautés du parc, a découvert cette année un parc qui, je vous rappelle, entame sa nouvelle saison ce samedi.
Les élèves de l'école Paul Martin de Mauléon ont suivi une action de prévention hygiène corporelle, les bucco-dentaires, c'était ce vendredi.
Et sur une initiative de deux mamans d'élèves, Elodie Blé et Sophie Lormier, infirmières et aides-soignantes, respectivement de profession, elles ont préparé depuis plusieurs mois cette action destinée à tous les élèves de l'école, excepté les CM1 et les CM2. Elodie Blé.
On a voulu travailler en partenariat avec l'équipe éducative de l'école publique. Nous, nos propres enfants sont déjà dans l'école, sachant que nous, on est dans le milieu professionnel. Et on voulait justement apporter quelque chose de notre métier pour aider les enfants et les familles.
Alors, ça correspond aussi à un souvenir de jeunesse.
Exactement, moi c'était mon école quand j'étais petite et je me rappelle en fait en classe de CP qu'une intervenante était venue nous expliquer comment se brosser les dents et nous avait offert justement une brosse à dents et ça m'avait marqué, donc là on a vraiment voulu marquer notre intervention dans la mémoire des enfants. Là ce matin c'est plutôt la maternelle, donc les petites sections, moyennes sections et grandes sections. Donc on adapte en fait notre outil pédagogique en fonction de l'âge de l'enfant. Donc là la maternelle c'est avec une chanson, l'approche. Et cet après-midi nous allons aller faire les CP-CE20, il y aura également la classe de CE2 dans un second temps. Et là ça sera une approche pédagogique un petit peu différente. Donc ça sera plutôt un atelier un peu plus ludique pour les plus grands.
Les deux mamans d'élèves ont ainsi démarché depuis le mois de septembre 2023 de nombreuses entreprises locales afin de remettre un kit hygiène aux 120 enfants avec un sac d'une valeur de 15 euros contenant une éco-cup, du dentifrice, une brosse à dents, un savon, des lingettes lavables, du shampoing ou encore une pince à poux. Sophie Lormier.
On a pu avoir par différents sponsors des articles d'hygiène, hein, shampoing, dentifrice, et etc. Donc pendant l'action, on a pu leur montrer comment bien se laver. Voilà, on commençait par le shampoing pour les cheveux, l'hygiène corporelle. On a montré le brossage de dents sur un petit dentier, sur le baigneur, lavage des oreilles, le visage, etc. Voilà, donc ils ont pu participer activement à nous montrer comment ils faisaient eux chez eux et on a pu réadapter les pratiques pour leur montrer comment on faisait exactement. Sachant que du coup ce projet-là est également en lien avec le parcours scolaire via EduSanté, un projet qui avait été mené il y a 2 ans par l'école maternelle qu'on a souhaité poursuivre pour garder le lien.
Action de prévention, hygiène corporelle et bucco-dentaire, donc c'était hier à l'école Paul Martin de Mauléon, reportage de Fabien Gazot. L'inauguration ce matin du multi-accueil Les Petits Mômes et du relais enfance Petite Enfance de Cerisay. Après les travaux engagés depuis plusieurs mois, les espaces ont été totalement repensés, permettant ainsi d'améliorer les conditions d'accueil des enfants et le travail des professionnels. L'inauguration est prévue à 10h30 tout à l'heure, suivie de portes ouvertes cet après-midi de 14h30 à 17h. L'exposition Terre d'Amitié qui réunit plus de 200 œuvres, céramique, sculpture, peinture au château de Bressuire, surtout ce mois de février, se poursuit encore ce week-end de 14 à 18h. Chantal Planchot, Jean-Marie Cour et Guy Guérineau sont trois artistes liés d'amitié depuis leur rencontre à la poterie de Saint-Porchère et tous trois pratiquent la céramique au raku. On en parlera prochainement plus en détail. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre au château de Bressuire ce week-end.
Le musée de Thouars prête sa Marie-Madeleine à Tours.
Le tableau sur bois daté du XVIe siècle représentant Sainte Marie-Madeleine alanguie et dénudée près d'un Christ en croix vient d'être exhumé des réserves du musée Henri Barret de Thouars. Celle qui est également appelée la Madeleine repentante va respirer l'air tourangeau pendant plusieurs semaines à l'occasion d'une exposition consacrée aux diverses représentations des femmes dans la peinture et leur importance dans la société. Les explications du conférencier Sébastien Morin au micro-colline de notre correspondant à Thouars, c'est Dominique Hérault.
Elle n'est pas signée. Au XVIe siècle, les œuvres sont rarement signées. Il y a au Louvre une œuvre qui s'appelle Eva Prima Pandora, qui est datée elle aussi du XVIe siècle, qui est attribuée à Jean Cousin l'Ancien, qui ressemble étrangement à l'œuvre que nous avons au musée Henri Barret. Le projet du musée des Beaux-Arts de Tours était cette année de travailler sur l'influence des femmes entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Une exposition qui traite un petit peu des différentes visions de la femme et des hommes au sein du couple. Les grands thèmes sont également le mariage, la fondation de la société chrétienne et l'objectif dans la vie des femmes, la maternité, leurs relations conjugales, l'intimité, le travail, les loisirs. Donc, différentes visions de la femme qui permettent surtout de présenter la femme d'une façon positive et surtout montrer son importance dans la société. Ce qu'on a eu tendance à oublier avec la société chrétienne de cette époque. Marie-Madeleine, par exemple, a été jugée pécheresse par les protestants. Elle a été réhabilitée avec la contre-réforme au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc c'est un personnage qui, évidemment, interpelle.
Il faut savoir que le prêt des œuvres entre musées n'est pas rare. Il illustre le fait que quelques perles se nichent ici ou là au point d'attirer l'attention des spécialistes. Sébastien Morin.
En termes d'image, c'est très intéressant de montrer qu'un musée comme le musée Henri Barret a des collections d'intérêt national. C'est régulièrement le cas ces dernières années. Des œuvres ont voyagé jusqu'au musée de l'éducation à Rouen, jusqu'au Canada, Tours, musée d'Angoulême. Voilà, régulièrement, on a des demandes de prêts. Ce sera le cas encore cette année pour un autre objet, une céramique du XVIe siècle au musée de Cognac pour parler de François Ier. Roi cognacé.
Quant à la superbe Marie-Madeleine Thouarsaise, elle sera visible au musée des Beaux-Arts de Tours sous l'intitulé Le Spectre et la Quenouille, preuve que le féminisme n'est pas né au XXe siècle. Le reportage de Dominique Hérault.
L'actualité sportive avant la météo.
Et cet exploit de la Romagne hier soir à domicile pour le compte du championnat de proie de tennis de table. Les Romagnons ont en effet battu l'équipe de Montpellier des frères Lebrun 3-1. Ce sera aussi l'un des sujets qui sera développé demain par Vincent Nori dans SMD avec le co-président de la Romagne, Guy Soulard. Vincent qui reviendra également, bien sûr, sur les premiers principaux résultats à retenir du week-end. Et puis, le tracé de la 38e édition du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, qui aura lieu du 20 au 23 août, a été dévoilé hier. On retiendra que l'arrivée de la deuxième étape sera jugée à Niort et que Ménigout accueillera le lendemain le départ du contre-la-montre individuel.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Des nuages dominateurs une nouvelle fois pour démarrer la journée.
Une couverture nuageuse qui nous accompagnera toute cette journée pour un samedi donc qui s'annonce plutôt maussade, associé à des rafales de vent pouvant atteindre les 50 km par heure. Les températures maximales aujourd'hui se situeront entre 11 et 12 degrés. Demain, le temps sera plus mitigé entre passages nuageux qui occasionneront encore quelques petites pluies et des périodes d'éclaircies. Le mercure sera identique à ce samedi.
Merci Patrice, c'est tout pour l'actu après chez vous ce matin et cette semaine. Retour désormais
lundi à 7h avec Fabien Gazot. Très belle journée, bon week-end avec Oli. J'aurai le plaisir moi de vous retrouver lundi à 18h.
C'était la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.